J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Tu as perdu! Tu as perdu, tu comprends? Tu ne joues plus.
Bonjour et bienvenue dans Aléa, notre émission sur la philosophie et les jeux. C'est Régis au micro et aujourd'hui, je vais encore vous parler de rhétorique procédurale. Dans notre émission précédente, je vous avais expliqué à quoi correspond ce nom barbare de rhétorique procédurale dans les jeux vidéo. Je vais y revenir aujourd'hui, très rapidement, pour les quelques malheureux qui auraient oublié d'écouter nos précédentes émissions, mais je vais surtout vous détailler quelques exemples précis de ces rhétoriques que l'on peut trouver dans les jeux vidéo. La rhétorique procédurale, donc, c'est un concept qu'on trouve dans un livre de Jan Bogost qui s'appelle « Les jeux persuasifs ou la capacité suggestive des jeux vidéo ». L'idée est toute simple. Il défend que les jeux vidéo sont des moyens d'expression qui peuvent véhiculer un message. Lorsque vous jouez à un jeu vidéo, vous pouvez être amené à réaliser des actions et à effectuer des choix. Par exemple, j'arrête une voiture sur la route et je décide de faire sortir son conducteur à coups de pied pour lui voler sa voiture. La rhétorique procédurale, c'est ce que le jeu, et derrière lui le concepteur de jeu, vous invite à faire grâce au système de jeu, aux règles ou aux suggestions d'actions et qui va véhiculer une idée. Autrement dit, c'est d'utiliser le jeu comme un moyen, conscient ou inconscient, pour transmettre une idée. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est « oui, mais concrètement, quelles formes peuvent prendre ces expressions rhétoriques dans le jeu ?» Parce que là, ça reste un peu vague. Eh bien, tout comme les figures stylistiques, qui nous aident à véhiculer des idées dans le discours ou dans la littérature, il y a des figures procédurales qui existent dans le jeu vidéo. Et Jan Bogost nous en donne plusieurs exemples que je vous livre ici. Il y a d'abord la fameuse rhétorique de l'échec. C'est une forme qui consiste à rendre, dans un jeu vidéo, la victoire impossible. On cherche en fait, dans ce cas-là, à suggérer aux joueurs que le système de jeu ne fonctionne pas, puisqu'il ne permet pas la victoire, et donc que le système qu'il représente dans le jeu est lui aussi dysfonctionnel ou inefficace. Par exemple, il y a un jeu qui s'appelle September 12, et qui vous plonge au lendemain du 11 septembre dans la peau d'un militaire américain. Il propose aux joueurs de bombarder des terroristes au Moyen-Orient. L'objectif est d'essayer de viser, en vue aérienne, très précisément, les terroristes qui courent sur la carte. Mais rapidement, vous vous apercevrez que, peu importe l'application avec laquelle vous essayez d'envoyer vos missiles pour viser les méchants, les frappes seront toujours loin d'être chirurgicales et feront aussi des morts du côté des civils. Mais malheureusement, pour chaque civil tué, ce sont de nouveaux terroristes qui apparaîtront. Donc le joueur se retrouve rapidement débordé et comprendra que le meilleur moyen de gagner, c'est encore de ne pas jouer. Le système de jeu voue donc le joueur à l'échec, quoi qu'il fasse. Et donc, par cette impossibilité de gagner, la critique est ici évidente. C'est l'absurdité de la riposte armée des Américains en Afghanistan et en Irak qui est remise en cause. Le jeu essaye de montrer, par cette rhétorique de l'échec, que les frappes américaines sont totalement contre-productives pour endiguer le terrorisme dans ces régions-là. Autre approche rhétorique, son opposé, la rhétorique de la victoire. Tout comme il est possible de faire comprendre qu'un système ne fonctionne pas par l'impossibilité de gagner, on peut suggérer aux joueurs qu'un système est biaisé parce qu'il est trop facile, voire impossible, de ne pas gagner. Il existe par exemple des monopolies détournées où tous les joueurs n'ont pas les mêmes chances de gagner. Certains doivent payer plus de taxes que d'autres, certains ont le droit de ne pas aller en prison, etc., etc. Il y a donc des joueurs qui peuvent avoir de tels avantages qu'il leur est impossible de ne pas écraser et rouler dans la boue leurs adversaires. Que suggère dans ce cas-là cette rhétorique de la victoire? Et bien que le jeu n'a aucun intérêt puisque les dés sont truqués dès le départ. Le joueur qui a d'énormes privilèges ne doit faire aucun effort pour gagner, tant les rapports de force sont inégalitaires. Dans ce type de jeu, on ne retire aucune satisfaction à la victoire trop facile, puisque le jeu n'oppose aucune résistance. Il perd totalement de son intérêt. Mais en revanche, il permet de nous poser une autre question, celle de l'inégalité de la répartition des privilèges. Troisième sorte de rhétorique, que j'affecte tout particulièrement, la rhétorique de l'obéissance. Dans tout jeu, nous sommes normalement habitués à suivre les règles et à nous lancer dans la compétition pour remporter la mise sur nos adversaires. C'est sur ces habitudes que nous propose de réfléchir le jeu Train de Brenda Romera. Dans ce jeu, on vous donne des wagons, à vous et à votre adversaire, des petits pions jaunes qui représentent les passagers, et au top de départ, vous devez aller plus vite que votre adversaire pour remplir tous vos wagons de passagers. Le premier des deux joueurs à avoir rempli ce wagon pioche le plus rapidement possible la carte Terminus et il a gagné. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que quand on retourne cette carte Terminus, on se rend compte qu'il y a écrit derrière Auschwitz. Et là, on se rend compte de ce qu'on vient de faire. Le jeu vient donc de nous ordonner de remplir au plus vite et au plus efficacement possible des trains de passagers jaunes qui vont aller dans les camps de concentration. Et le jeu nous invite donc à réfléchir à ce que, dans le cadre de l'obéissance aux règles et de l'esprit de compétition, nous sommes capables de faire. Une sorte de clin d'œil à l'expérience de Milgram. Il existe encore beaucoup d'autres exemples de rhétorique possible dans les jeux vidéo et les jeux en général. La rhétorique de la désobéissance, qui vous invite à désobéir à des ordres absurdes ou immoraux pour sentir la puissance libératoire de telles actions. La rhétorique de l'ennui, qui vous invite à réaliser des tâches lentes et rébarbatives pour vous amener à réfléchir sur les habitudes, les carcans et les systèmes abrutissants du quotidien. Il y a aussi la rhétorique de l'absurde, de l'attachement, de l'irréparabilité, etc., etc. Vous en trouverez plein d'autres détaillés dans le livre de Yann Bogost sur « La capacité suggestive des jeux vidéo ». Mais grosso modo, vous devez avoir compris l'idée. Le jeu vidéo a un pouvoir expressif et persuasif. Quand on vous suggère de faire quelque chose, quand vous avez des choix à effectuer, des missions à remplir ou des obstacles à surmonter, vous faites des actions qui veulent dire quelque chose. Et les concepteurs de ces jeux peuvent vous amener, consciemment ou inconsciemment, à essayer de penser des idées ou à réaliser les conséquences de vos actions. C'est en cela que le jeu vidéo peut être conçu comme un argument. À vous maintenant, lorsqu'il y en a, d'essayer de dénicher ces messages qui peuvent être cachés dans les jeux. Et posez-vous la question lorsque vous jouez. Qu'est-ce qu'on essaye de me faire faire? Et par là, qu'essaye-t-on de me dire à travers le jeu?
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Tu as perdu ! Tu as perdu, tu comprends ? Tu ne joues plus !